Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. L'Union européenne est souvent accusée de s'occuper avant tout des entreprises en ignorant les travailleurs. Alors Daniel, que faut-il en penser ?
Eh bien, cette assertion, Yann, est erronée. Dès 1951, dans le traité de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et en 1957, dans le traité de Rome, la préoccupation sociale du travail et des travailleurs est présente. Je lis, ouvrez les guillemets, « Les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisation dans le progrès. » Et pour y aider, le traité instaure le Fonds social européen. Par ailleurs, plusieurs grands principes sont inscrits dans le traité. La libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté. L'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour le même travail. Et le traité de Rome précise aussi, dans les matières relatives à l'emploi, au droit du travail et aux conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la sécurité sociale, à la protection contre les accidents et les maladies professionnelles, à l'hygiène du travail, au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres. Mais les États jaloux de leurs prérogatives ont longtemps fait montre de beaucoup de frilosité dans la collaboration pour le social.
Mais alors cela signifie-t-il que seuls les États ont la main sur le social ?
Oui, mais pour partie seulement. Ainsi, avec la crise économique du milieu des années 70, due au premier choc pétrolier, les États ont accepté un programme européen d'action sociale. En 1989 a été élaborée la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ces droits, repris dans les traités de Maastricht à Lisbonne, ont généré de nombreuses directives. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne interprète le droit du travail et, par sa jurisprudence, uniformise le droit social dans les États membres.
Concrètement, quel est l'impact de la législation de l'UE pour le travailleur européen ?
Cet impact, on peut l'analyser sous trois aspects. Premier aspect, au nom de la liberté de circulation des travailleurs, le travailleur d'un État membre a le droit de séjourner dans un autre État membre pour travailler ou pour chercher un emploi avec les mêmes droits que le travailleur national. Il profite de la reconnaissance des qualifications professionnelles établies en 1989 et 1992, de la coordination des régimes de sécurité sociale 71-72 et 2004, et il peut, dans sa recherche d'informations, recourir au réseau EURES qui réunit les services publics de l'emploi des pays membres de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse. Alors pour la France, c'est France Travail aujourd'hui. Deuxième aspect, le travailleur bénéficie du droit du travail européen qui établit des normes et des seuils de protection minimale. Cette protection plancher concerne le temps de travail, la durée hebdomadaire limitée à 48 heures en 2003, heures supplémentaires comprises, la période minimale de repos journalier, 11 heures, ou hebdomadaire, 35 heures, tous les 7 jours, sans oublier le congé annuel payé de 4 semaines. Les droits pour les salariés exposés à des risques particuliers pour leur emploi, licenciement collectif, transfert d'entreprise, insolvabilité de l'employeur. Les conditions de travail des travailleurs détachés, 1996. La santé et la sécurité au travail, près de 25 directives spécifiques portent entre autres sur la protection des femmes enceintes 92 et des jeunes 94 sur le lieu de travail. La protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au travail à des agents cancérigènes ou mutagènes, chimiques ou biologiques. Mais aussi l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Congé de maternité 14 semaines en 92, congé parental de 4 mois en 96, dont 2 mois non transférables, congé de paternité 10 jours au moins, congé pour aidant 5 jours par an. Enfin, l'information, la consultation et la participation des travailleurs avec des règles communes pour les groupes de dimension européenne, comité d'entreprise en 94, obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés d'informer leurs salariés sur la situation économique et financière, sur les changements de structure ou sur les modifications envisagées des conditions du travail. Enfin, un troisième aspect porte sur l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations. 13 textes depuis 1970 visent à éliminer les discriminations fondées sur le sexe, en termes de rémunération, de promotion, de formation. Par exemple, l'interdiction des offres d'emploi sexuées, l'allègement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination sexuelle en imposant à l'employeur de prouver que son agissement n'est pas discriminatoire, mais aussi la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Depuis 2000, la lutte concerne les discriminations au travail pour d'autres motifs, origine raciale ou ethnique, religion ou conviction, handicap, orientation sexuelle, âge.
Or, concernant l'emploi et la rémunération, l'Union européenne joue-t-elle un rôle ?
Alors, dans ces deux domaines, l'UE n'a pas la main. Elle est en appui des États. En matière d'emploi, elle finance, via le FSE+, les actions de formation et de retour à l'emploi. Et via le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, elle apporte une aide aux travailleurs perdant leur emploi pour cause de mondialisation. Avec la garantie européenne pour la jeunesse, l'Union aide les États à lutter contre le chômage des jeunes. En matière de rémunération, sachant que 6 pays sur 27 n'ont pas de salaire minimum national, l'intervention de l'UE consiste à favoriser une harmonisation des rémunérations minimales à la hausse.